Chapitre 32, Weihnachten, lundi 26 et mardi 27 juillet 2010.
T'as passé une bonne soirée?
Me demanda-t-elle.
Bof, ça va, et toi? Ne te fous pas de moi, Marcus. Avec qui tu étais à ce concert?
Je n'essayais pas de nier. Je lui demandais simplement comment elle avait su.
Parce que je t'ai vu sortir de ton hôtel hier. Je venais de me garer devant. Tu ne m'as pas vu. Tu avais l'air pressé. Tu es monté dans ta voiture et je t'ai donc écrit « Tu viens chez moi ». C'était une question. Mais tu as cru que c'était une invitation et tu m'as dit que tu voulais te reposer dans ta chambre, alors que je te voyais en train de partir. Espèce de menteur. Je pensais que t'étais un mec bien, Marcus. Un mec différent. Et tu ne vaux pas mieux que les autres. Alors quoi, tu as une poule à Boston? Tu l'as emmenée à ce concert?
Lorraine, tu vas avoir de la peine à me croire, mais je suis allé seul à ce concert.
Ah bah voyons! Rick Hébert m'a donné ce billet. Je l'ai revu samedi dernier. Il m'a suggéré de me rendre à ce concert.
Pourquoi?
C'est compliqué, mais il voulait me permettre de retrouver quelqu'un. Quelqu'un qui a été important dans ma vie.
Une ex, quoi?
Oui.
Qui est-elle?
La fille de la photo.
Quoi?
La fille sur la photo avec mes cousins, Alexandra. C'est elle.
Et?
Je suis resté à distance à la regarder. Elle n'a rien osé dire ni faire.
Vous ne vous êtes pas parlé?
Non.
Est-ce que tu as des sentiments pour elle?
Je fis une pause et je la regardais dans les yeux avant d'avouer « Je crois ». Elle s'accrocha à sa tasse de café comme si elle voulait me la lancer au visage. À cet instant, mon téléphone sonna. C'était Galwood.
« L'écrivain, vous êtes où ?»«
Au Season, avec Lorraine. » »«
Rejoignez-moi tous les deux à l'hôtel. J'ai trouvé une piste. »
Galwood, trop exalté par sa découverte, ne remarqua pas la tension entre Lorraine et moi. À une table du restaurant de l'hôtel, il nous montra l'un des carnets d'Eleanor Lowell.
« Je l'ai lu en entier, » nous dit-il, « et voilà sur quoi je suis tombé. »
Il pointa une page noircie d'une écriture minuscule. Je le rejoins. Il m'a dit qu'il désespérait sans moi. Depuis ce 4 juillet raté, je m'étais promis de ne pas retourner là-bas, mais il a besoin de ma présence et je ne veux pas l'abandonner. Il était même prêt à venir me chercher en voiture, mais je voulais lui épargner le trajet, surtout avec cette parade idiote qui bloque la ville. Je n'ai jamais compris l'attrait pour ces homards géants. Je prends le bus. Aussitôt que je suis à bord, mon corps est impatient. Je n'ai qu'une hâte, le retrouver. Nous enfermer dans notre bulle, dans notre paradis. Lorsque sonne la corne de brume, mon cœur s'emballe. Je sais qu'il est tout proche. Je le rejoins dans son havre, là où personne ne peut nous retrouver, là où personne ne peut nous déranger. C'est un endroit à part. Dans cette maison grise, au milieu des érables rouges où je me sens femme, nous pouvons être un couple. Nous sommes à l'abri.
Dans ce texte, nous expliqua Galwood, Eleanor mentionne un trajet en bus consécutif à un 4 juillet désastreux. J'imagine qu'il s'agit de ce voyage en bus pour Rockland dont nous a parlé Stéphanie Lehan. Eleanor parle de homards et les homards c'est le Maine, ce qui nous ramène à Rockland encore.
Jusque-là, je vous suis, sergent, dit Lorraine.
Galwood poursuivit.
Eleanor mentionne également une parade. Je suis donc allé vérifier s'il y avait en août dans le Maine une parade dont l'emblème serait le homard. Et je vous le donne en mille, tous les ans depuis 1947 à Rockland, Maine, se déroule le Festival du homard, au cours duquel un cortège de homards géants défile dans le centre-ville.
Eleanor va rejoindre son amant à Rockland dans une maison grise entourée d'érables rouges. Récapitulai-je. Une corne de brume sonne. Il doit probablement y avoir un phare à proximité, ce qui devrait nous permettre de circonscrire nos recherches. Galwood acquiesça en nous dévisageant Lorraine et moi. Puis il nous dit
« Vous savez ce qu'il nous reste à faire ?»«
En route pour Rockland !»
décréta Lorraine. Rockland se trouvait à 3 heures de route. Nous devrions probablement passer la nuit là-bas et nous partîmes avec quelques affaires. L'agglomération de Rockland s'étalait sur 40 km². Malgré l'indication d'un phare à proximité, y retrouver une maison grise ne serait pas une mince affaire. Pour plus d'efficacité, nous nous y rendîmes à 2 voitures. Galloway et moi dans l'une, Lorraine dans l'autre. Nous arrivâmes sur place en fin de matinée et nous nous mîmes aussitôt au travail. Lorraine se chargerait de quadriller la partie nord de la ville, Galloway la partie sud. Moi, je ferai le tour à pied du centre-ville, magasin après magasin, pour présenter une photo d'Eleanor aux commerçants en espérant éveiller un souvenir enfoui. La journée ne fut qu'une succession de fausses pistes. Plusieurs maisons grises furent repérées, certaines entourées d'érables, d'autres pas. Chaque fois, il fallut vérifier dans les moindres détails et chaque fois nous tombions à côté. Certaines étaient des constructions d'après 1998. D'autres étaient d'une couleur différente 12 ans plus tôt et avaient été repeintes depuis. D'autres encore étaient habitées par des hommes aujourd'hui trop jeunes ou trop vieux pour avoir été l'amant à l'époque. Pour l'appuyer, Galloway avait sollicité l'aide de la police de Rockland qui s'était montrée très coopérative. Sans résultat. Quant à mon tour des commerces avec la photo d'Eleanor, il ne fut que peine perdue. À la fin de l'après-midi, nous n'avions aucune piste. Lorraine renonça et décida de rentrer à Mount Pleasant. Galloway et moi poursuivîmes jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsqu'il fit trop sombre pour voir quoi que ce soit, nous fîmes halte dans un motel. Malgré la fatigue de la journée, nous étions trop agités pour dormir. Nous restâmes dehors devant nos chambres, assis sur des chaises en plastique, à boire des canettes de bière.
« Tout va bien, l'écrivain ?»
me demanda Galloway.
Vous ne sembliez pas dans votre assiette aujourd'hui. Vous n'avez pas pipé mot de la journée, ce qui est inhabituel. Vos insupportables jacasseries m'ont manqué.
C'est Lorraine, sergent.
Ah, maintenant que vous me le dites, vous n'aviez effectivement pas l'air d'être en odeur de sainteté auprès d'elle.
Je sais. J'ai fait une connerie.
Grave?
Oui et non. Je lui ai menti, ce qui n'est jamais bien. Je suis attaché à Lorraine, mais je me pose beaucoup de questions.
À propos de quoi?
Une histoire ancienne dont je vous parlerai un jour.
À votre écoute, quand vous serez prêt.
Sergent, comment avez-vous su qu'Hélène était la bonne? Galloway haussa les épaules.
Vous voulez que je vous réponde honnêtement?
Oui.
Je le sais depuis qu'elle n'est plus là. Bien sûr, je l'aimais plus que tout. Bien sûr, je l'ai demandée en mariage parce que je me voyais faire ma vie avec elle. Bien sûr, malgré les hauts et les bas, je n'ai jamais douté de mon amour. Mais vous savez ce que cela signifie quand on dit qu'une personne est la bonne? Cela signifie que quand elle meurt, vous vous rendez compte que vous auriez voulu mourir avec elle. Votre monde s'écroule. Vous ne fonctionnez plus sans elle. Je me sens comme une machine cassée, l'écrivain. En perdant Hélène, j'ai perdu mon propre mode d'emploi.
On va vous réparer, sergent.
Je ne sais pas si ça se répare, l'écrivain. Et vous savez quoi? Tant mieux si ça ne se répare pas. Ça signifie qu'on a aimé, vraiment. Ça fait très mal, mais ça donne tout son sens à notre courte vie.
Le lendemain matin, à la première heure, Galloway et moi nous remîmes en chasse de la mystérieuse maison grise. Nous longeâmes la côte, bien au-delà de Rockland, pour inspecter toutes les habitations proches des phares. Toujours en vain. À la fin de la matinée, après plusieurs heures de recherche infructueuse, nous retournâmes à Rockland complètement dépités. Pas l'ombre d'une piste et l'impression de tourner en rond. Nous bûmes un café sur le port. À côté de nous, un pêcheur débarquait ses casiers à homards. Nous l'observions en silence. Un ferry quitta le port chargé de plaisanciers. Je les regardais avec envie. J'avais besoin de vacances. Nos cafés terminés, je demandai à Galloway. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, sergent? Même lui s'avouait vaincu.
On retourne à Mount Pleasant, l'écrivain.
J'acquiesçai. À cet instant, le ferry actionna sa sirène. Trois longues sonneries. Trois sonneries de cornes de brume. Galloway et moi nous regardâmes stupéfaits. Je m'écriai.
Bon sang, sergent, vous avez entendu ça?
Pour avoir entendu, j'ai entendu.
Il interpella le pêcheur.
Monsieur, où va ce ferry?
Vinalhaven, répondit le pêcheur.
Vinalhaven, répéta Galloway.
L'île de Vinalhaven, c'est à 1 heure de ferry, vous ne connaissez pas?
Non. Il y a du monde qui vit là-bas?
Environ 2000 personnes, c'est devenu très à la mode. Beaucoup de vacanciers. Galloway sortit de sa poche le carnet d'Eleanor qu'il avait emporté avec lui. Il relut le passage où elle mentionnait un havre, un endroit à part où personne ne pourrait les retrouver. Une île correspondait parfaitement. Vinyl Haven, renseignement pris, était un lieu de villégiature prisée. Un endroit où un homme d'âge mûr, en plein divorce, pourrait trouver un peu de quiétude. Une demi-heure plus tard, nous mettions la voiture de Galloway sur le ferry. Une fois sur l'île, nous nous mîmes de nouveau en chasse d'une maison grise entourée d'érables rouges. Nous passâmes la journée à faire le tour des maisons de Vinyl Haven, les unes après les autres. Finalement, nous trouvâmes une petite maison au bord de l'eau qui correspondait exactement à la description. Une bâtisse en planches grises entourée d'immenses érables rouges. Nous laissâmes notre voiture un peu à l'écart par souci de discrétion et nous nous approchâmes de la propriété. Les lieux semblaient déserts. Il n'y avait aucun véhicule visible. Pas de nom sur la boîte aux lettres. Galloway sonna à la porte. Aucune réponse. J'entrepris alors de faire le tour de la maison. Par les fenêtres, je vis qu'il n'y avait personne. Alors que je scrutais le salon, je fis une découverte à laquelle je ne m'attendais pas.
« Sergent, venez voir !»
Galloway accourut.
« Que se passe-t-il »«
Regardez dans le salon, le mur du fond derrière le fauteuil. » Galloway se colla à la fenêtre.
« Nom d'un chien, l'écrivain !»
Au mur était accroché un tableau représentant un coucher de soleil sur l'océan. Le tableau en arrière-plan de la vidéo d'Alaska. C'était ici qu'elle avait enregistré sa dernière audition. Au même instant, un bruit de moteur. Un véhicule arrivait. Galloway eut le réflexe de m'entraîner dans les buissons. C'est alors que nous vîmes apparaître une voiture bleue, un modèle d'au moins 10 ans, qui se gara devant la maison. La portière du conducteur s'ouvrit, et en découvrant l'homme qui sortit de l'habitacle, Galloway et moi restâmes stupéfaits. Plusieurs véhicules de la police d'État et du shérif du comté de Knox étaient embarqués sur un bateau-plateforme des gardes-côtes qui avançait doucement sur l'océan, escorté d'un vol de mouettes.